Bonjour à tous.
Et permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi un projet, c'est un truc bien, mais je ne croyais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait le pari il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
En France, les enfants en situation de handicap peuvent être scolarisés de différentes manières selon leurs besoins. Depuis 2005, en priorité, ils sont intégrés dans des écoles ordinaires avec des aménagements et un accompagnement adapté, comme des auxiliaires de vie scolaire, qu'on appelle les AESH. Certains peuvent aussi être scolarisés dans des dispositifs spécialisés, comme les ULIS, tout en restant intégrés partiellement dans des classes ordinaires. Mais lorsque le handicap ou la maladie est trop sévère et que les circonstances l'exigent, l'élève peut être orienté vers un établissement médico-social. Il s'agit des IME, les Instituts Médico-Éducatifs, ou bien les IEM, les Instituts d'Éducation Motrice, ou encore ce qu'on appelle les ITEP, qui sont des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques. Il peut alors bénéficier, pendant un temps de son parcours de formation, d'une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée. Dans certaines régions de France, il existe aussi ce qu'on appelle des EREA, qui sont spécialisés dans la scolarisation des élèves malades ou handicapés. Les EREA, ce sont des établissements régionaux d'enseignement adaptés, c'est-à-dire des établissements scolaires en grande partie subventionnés par la région. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène dans la seule école de France qui est dans l'enceinte d'un hôpital, l'EREA Jacques Brel. Elle a vu le jour il y a 30 ans dans l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, à l'ouest de Paris. Cet hôpital a un pôle pédiatrique important et est mondialement connu pour sa prise en charge du handicap. Nous allons marcher sur les pas d'Élise Vien, la directrice de l'EREA, pour aller à la rencontre des 80 patients élèves de cet établissement scolaire extraordinaire. Ici, 10% des élèves sont hospitalisés à plein temps et 90% sont accueillis en hôpital de jour. Ils arrivent par taxi ou en ambulance le matin, sont accueillis par les soignants et ont des temps de rééducation et des temps de classe. Puis, ils repartent chez eux après une journée bien remplie, où ils ont par exemple parlé au micro de leur super radio.
On y va. 1, 2, 3.
Bienvenue sur Super Radio.
Ah oui. Bonjour à tous. La classe de CP-CE1 vous présente un petit jeu sur les différentes familles de livres. On écoute Agnès.
Il donne des informations, il raconte pas une histoire, il donne des informations vraies.
Réponse de Samaï. C'est un livre documentaire. On écoute Tasmine.
C'est un livre pour les enfants. Il raconte histoire, il y a des images, des écritures, et zites.
Je m'appelle Élise Vien, je dirige l'EREA Jacques Brel depuis 3 ans, maintenant c'est ma 3e rentrée. Mon parcours avant ce poste à profil, eh bien, j'étais professeure d'histoire-géographie. Et puis, je me suis dit très vite que j'avais envie d'autres choses aussi, et de porter des projets, et puis de conduire les équipes vers des projets innovants. Je pensais que ça, je pouvais apporter cela. Alors, j'ai passé le concours de personnel de direction assez jeune, à 32 ans. J'ai été principale adjointe d'un collège en REP difficile, et puis proviseur adjoint d'un lycée polyvalent. J'y ai appris beaucoup. Et puis au moment où je me suis dit j'ai envie de peser un petit peu plus sur les choses et de devenir chef d'établissement, je connaissais l'EREA Jacques Brel et je me suis dit que ce côté intermétier, ce côté éducation nationale dans une structure complexe comme les hôpitaux de Paris, comme la PHP, pouvait me convenir et j'ai candidaté et j'ai eu la chance d'être retenue. Et donc je dirige cet établissement avec bonheur depuis 3 ans.
Merci à Agathe pour son jeu sur les différentes familles de livres dans la médiathèque de l'hôpital.
On a enregistré donc la partie de la classe des CP et des CE. On s'applaudit un petit peu quand même.
L'EREA Jacques Brel est un établissement régional d'enseignement adapté, donc éducation nationale. Des EREA, il y en a à peu près 70 en France. Sur les 70, il y en a 5 qui sont médicalisés. Et dans le maillage géographique tout proche, nous sommes 3 EREA. Donc Jacques Brel, celui que vous visitez aujourd'hui, Jean Monnet à 100 mètres sur le boulevard et à 1,5 km, Toulouse-Lautrec. 3 EREA sur très peu de distance, pourquoi ? parce que nous sommes liés à l'histoire de l'hôpital, donc l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Aujourd'hui, il est connu pour, mondialement pour sa prise en charge du handicap. Et il y a un pôle pédiatrique important dès la création de l'hôpital. Le premier établissement à se structurer, c'est Toulouse-Lautrec. C'est le plus connu des trois. La création, c'est à peu près il y a 47 ans. Et puis, le petit dernier, donc c'est Jacques Brel, c'est nous. Nous avons fêté nos 30 ans il y a un an. Cet établissement est resté, c'est le seul des trois à être resté, on va dire, dans la clôture de l'hôpital. Alors pourquoi ? Parce que nous ne scolarisons que des patients élèves. Ça, c'est très important. C'est la première grande différence avec les deux autres EREA. Ils ont des élèves, nous avons des patients élèves. Ce qui veut dire que le scolaire n'est pas prioritaire.
Alors, du coup, des maternelles. Donc, en fait, bon, il n'y en aura pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. C'est aussi la vie réelle de notre établissement. Avec Mike, professeur de PS.
C'est parti.
Bonjour. Qu'est-ce qui est marqué dessus ? C'est marqué.
Bonjour, Audrey.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Tu vas avec Audrey ? J'arrive. Je mets juste la musique pour les chopons. Nyota, tu te mets debout ?
Quoi ?
Tu te mets debout, on va faire la chanson d'échauffement.
Michael Mathieu. Dit Mike, professeur de PS depuis une trentaine d'années.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous plaît ou vous stimule particulièrement dans ce travail de professeur de PS ici à l'ERA ?
Redonner de l'estime de soi, moi ça a toujours été ça. L'estime de soi et la confiance en soi, ça permet d'épanouir les enfants. Et après on en fait ce qu'on veut parce qu'il y a une grande plasticité. À partir du moment où il y a la confiance, le reste ça suit.
C'est une aventure à travers la savane sauvage. Vous entendez les animaux ? Ils sont en train de voir les animaux ?
Oui.
Ah ben ouais, on est dans l'aventure là. Donc pour devenir une vraie aventurière, on doit franchir plusieurs épreuves.
Des animaux.
Des animaux, tu les vois, ils sont là. Il va falloir franchir plusieurs épreuves. Oui, c'est quoi ça ?
Alors là, le parcours que vous avez conçu, où on a vu Mia déambuler, est-ce que c'est vous qui l'avez imaginé ? Est-ce que vous l'avez imaginé en lien avec les médecins ou les enseignants ? Comment vous l'avez conçu ?
C'est exactement ça, c'est un peu l'idée, l'ADN de l'EREA. C'est le travail communautaire, c'est des intermétiers. On prend des formations. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, à 14h, on a une formation sur la dyspraxie et la coordination, faite par un médecin très réputé. C'est des billes en plus qu'il me donne. Chaque enfant a un rééducateur personnalisé. Il nous consulte souvent. Pourquoi ? Parce que l'enfant, en rééducation, il est en face-à-face avec son rééducateur. L'enfant, ici, dans les parcours de motricité, il est face à un environnement peut-être complexe, mais aussi avec ses autres camarades. Et donc, il y a une interaction qui fait qu'il se sent peut-être un peu moins, pas moins jugé, mais moins... Il est moins dans une situation de soins et plus dans une situation ludique.
Tu mets le bleu là-dedans ?
Voilà. Et maintenant, on peut rentrer dans les deux nénuphars géants pour éviter de se faire mordre par les... Crocodile.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la petite Mia ?
Alors oui, c'est une maternelle. Mia, elle a 4 ans. Elle a donc un trouble neuromoteur au niveau du bas du corps. Faiblesse aussi un peu au niveau du haut du corps. J'essaye d'avoir les informations principales sur la problématique, mais je ne veux pas me bloquer sur ces informations-là. Je demande l'accord, par exemple, aux soignants. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Je ne veux pas rentrer dans le système où je suis un rééducateur. Je ne suis pas un rééducateur. Ça, c'est, pour moi, c'est très important de dissocier les deux parce que c'est complémentaire, tout simplement. Elle a mis également quelques troubles dans le relationnel. Elle ne vous regarde pas droit dans les yeux au début. Très refermée sur elle. Au fur et à mesure, elle accepte. En fait, j'ai appris ça aussi avec la compagnie de danse Shonen avec qui on collabore depuis un an et demi. Ils m'ont appris à être un exosquelette des enfants. En fait, c'est une danse contact entre des corps experts et des corps un peu atypiques. Et le but, c'est de rendre une certaine liberté gestuelle à tous les enfants qui ont une déficience motrice, neuromotrice.
Elle a réussi !
Il y a des soins Ces enfants sont là, se trouvent là parce que les médecins ont dit « Nous assurons, nous allons assurer la prise en charge de la pathologie. Tous mes élèves sont porteurs de troubles du neurodéveloppement, donc relevant tous de la MDPH, et des pathologies souvent sévères, parfois dégénératives, parfois des élèves en espérance de vie limitée. Lorsque les médecins, les neuropédiatres disent « Voilà, la famille, nous allons prendre en charge », eh bien, puisqu'il est en âge de l'école, eh bien, il est scolarisé à Jacques Brel.
Moi, je m'appelle Baptiste, je suis en CM2.
Moi, je m'appelle Ancelin, je suis en CM2.
Je m'appelle Kaylen et je suis en CM2.
Les réas, c'est différent des classes ordinaires. Le matin, on vient en taxi, on arrive dans notre service. Et notre service, après, il nous emmène à l'école.
Moi, je suis le docteur Narcy Lucie, je suis neuropédiatre. Et je me suis spécialisée notamment dans les troubles du neurodéveloppement. Donc, les troubles du neurodéveloppement, ce sont une association de plusieurs types de troubles, notamment les troubles du langage qu'on reçoit ici, les troubles développementaux du langage écrit, qu'on appelait anciennement les dyslexies des orthographies, les TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Dans les troubles du neurodéveloppement, il y a également les troubles du développement intellectuel qu'on ne reçoit pas ici et les troubles du spectre de l'autisme qui peuvent faire partie des comorbidités, enfin des pathologies associées qui peuvent aussi exister chez les patients qu'on reçoit ici. Donc nous, côté hôpital, on a un CERTLA, c'est un centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Notre mission, c'est de recevoir les enfants qui auraient des troubles du langage ou des apprentissages et qui ont besoin de diagnostics ou alors qui ont besoin d'un accompagnement dans la coordination de leurs soins. Donc la porte d'entrée, c'est cette consultation médicale pour poser des diagnostics et ensuite coordonner les soins. Et lorsqu'on reçoit des enfants extrêmement sévères dans leurs symptômes, on peut les prendre en charge en hôpital de jour pour de la rééducation intensive. Donc c'est un projet de soins qui dure 2 ans, où on accueille les enfants, où en fait ils vont être scolarisés sur place, et donc c'est pour ça qu'ils arrivent à l'ERIA.
On va soit à l'école, soit en rééducation. Des fois, on peut aller toute la matinée en rééducation, ou toute la matinée
classe.
En classe.
On peut aller soit en ortho, soit en ergo, soit en kiné. Pas que l'ortho, c'est dans un hôpital. Et on n'a pas besoin de se déplacer loin. On est déjà dans l'hôpital.
Parce que vous mettez combien de temps pour venir là?
1 heure, moi.
Moi, 1 heure.
Moi, si je suis tout seul, ça prend 30 minutes. Mais comme on vient avec des autres élèves, moi, ça prend des fois 1 heure.
Vous n'êtes pas trop fatiguée?
Non, c'est quand je rentre, moi, oui.
Moi, je m'appelle Sophie Charveria et je suis cadre de rééducation faisant fonction depuis 1 an sur la pédiatrie à l'hôpital Raymond Poincaré. Alors, moi, je ne suis pas en contact direct avec les réas. Je m'occupe de l'équipe de rééducation qui se compose de 25 personnes sur l'hôpital. Mais on prend en charge les mêmes patients qui viennent à l'EREA. Donc, on a tout un travail de communication et de co-construction du projet autour de l'enfant à réaliser.
Alors, on est là? Les CM1 sont là. Allez, je vous laisse.
Bonjour.
Alors, vous venez ici?
J'arrive.
Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer là, rapidement, ce qu'on fait avec la photographe Myriam?
Ben, on a fait, pour le montage, ben, on a fait les poses et après on les a posées sur des images. Et après avoir collé, et ben, on va décorer nos images. Du coup, moi, j'ai pris 3 loups que j'ai mis en laisse. J'ai fait aussi une position de ski et les autres loups.
D'accord, c'est très chouette.
Je m'appelle Myriam Tirler, je suis photographe. Donc, parallèlement à mon travail personnel, j'interviens dans différentes structures pour utiliser la photographie comme tremplin pour plusieurs choses, pour essayer de créer un peu un rapport à l'imaginaire, mais aussi créer du contact, du lien social, tout bêtement. Hein.
Donc, c'est eux qui ont fait les photos.
C'est eux qui ont fait les photos. Donc alors, l'idée, c'était de travailler en plusieurs temps, de choisir une image de fond qui soit une image de paysage, soit d'animaux, et de se projeter dans une posture dans ce paysage, pour sortir du monde réel et créer un monde imaginaire.
Par rapport aux pauses qu'ils ont faites, est-ce que vous aviez réfléchi, est-ce qu'ils avaient réfléchi en amont
à... Oui, tout à fait, parce que la première séance, on a travaillé. Alors, donc, je ne travaille pas du tout toute seule, je travaille avec une équipe de choc ici. Donc, il y a Fanny, la prof d'art plastique, qui est merveilleuse, et Gwenaëlle, qui est la prof de français. Et Mike, qui est le prof de sport. La première séance, on l'a fait avec Mike et on a vraiment utilisé aussi tout son attirail de compétences pour les postures. Donc on avait des tapis, etc.
En fait, là, je suis avec des loups, là. De loups, là.
D'accord. Et comment ta position ?
Une fois, en fait, là, ça devrait être là, mais en fait, il faudrait que je sois un peu plus grand.
Ouais. On va te l'imprimer en plus grande.
D'accord. Et là, je suis sous la mer, comme une sirène, je sais pas, avec en train d'assiser un poisson.
Je suis Fanny Loga, je suis enseignante d'art plastique à l'IREA Jacques Brel. J'interviens auprès de tous les élèves, donc ça va de la petite section de la maternelle jusqu'au niveau collège. Alors ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était la part interdisciplinaire. Donc on a travaillé sur des postures, donc on a pu travailler également avec le collègue d'EPS. Il y a en fait une approche complémentaire qui se retrouve également avec l'enseignante professeure des écoles, Guénaëlle, qui va travailler, elle, en classe après de la production d'écrit. Donc en fait, ça fédère, ça lie toutes nos pratiques professionnelles qu'on travaille individuellement, normalement, mais qu'ici, on va travailler en concert, en fait.
Alors, donc, là-bas, on va en musique. Alors, le grand tremplin... c'est un dispositif. Donc, il y a des classes, comme vous avez vu le CM1. Il y a le CPCE1, il y a les classes de maternelle. Et il y a le petit tremplin et le grand tremplin. Le grand tremplin, vous allez voir des ados qui sont fragiles, les plus en difficulté, où il y a le plus grand delta, en fait, entre l'âge et les possibilités cognitives. D'accord. Donc, on travaille des tout petits projets, des tout petits objectifs, et beaucoup de sociabilisation. Il y a des élèves qui sont non-verbaux. Voilà, on essaye de faire des choses assez extraordinaires avec Alexandra, vous verrez, enseignante spécialisée qui fait des choses incroyables. Allez, on y va.
Et après ? Exactement, et ça dit juste avant, il descendra par la cheminée.
Super,
et
Mère,
elle nous fait les gestes en plus.
Et là, la dame.
Ah ouais,
et là,
la dame. Bonjour, ouais. La dame. Il descendra par la cheminée. Mais... Pour se souvenir, on peut peut-être faire le geste, si on a envie, mais c'est pas obligé.
Alors, je m'appelle Émilie Lassagne, et je suis enseignante en éducation musicale à l'IREA Jacques Brel. Je me sens bien ici, parce que je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti... En étant face à mes élèves, le sentiment d'être entièrement disponible pour eux. Ça me rend presque un peu triste de dire ça. Le fait de sentir que, effectivement, dans l'enseignement en collège, dans l'ordinaire, où j'étais jusqu'à l'année dernière, et ben finalement, c'est quelque chose que je ne ressentais plus. Là, je sais que pour chacun des enfants, je suis présente pour chacun et pour tous. On travaille à la fois dans la dimension collective, puisqu'on a la chorale, par exemple, où c'est un des rares moments dans la semaine où les enfants sont dans un effectif un peu plus conséquent, ils sont une vingtaine. Et puis, quand ils sont tout petits groupes, je peux vraiment m'adapter à chacun, mais au service du collectif aussi. Pour l'instant, avec les collègues de maternelle, on travaille beaucoup ensemble. On est vraiment en lien très régulier. Je sais qu'elles réutilisent ce que je fais en classe dans leurs propres cours. Elles viennent assister aux cours. Les soignants, pour l'instant, moi je suis là depuis seulement 3 mois et demi en fait, donc je découvre encore un peu. Mais le fait de les croiser, d'avoir quelques échanges sur ce que j'ai pu observer dans le cadre d'un cours, de sentir que on travaille tous dans la même direction et qu'on n'est pas que entre profs, c'est assez inédit pour moi et c'est, je trouve ça hyper stimulant.
Le marchand de sable est passé et les enfants dorment. On avait oublié. On entend des clochettes au loin.
On entend des pas sur le toit. Et quelqu'un qui glisse dans la cheminée. C'est la nuit de Noël, tout est calme. Demain, les enfants trouveront au pied du sapin leur cadeau et un petit grelot oublié par le Père Noël. Ah, le grelot, c'était à tout. Ouais, mais là, c'était juste un entraînement.
Je m'appelle Alexandra Aubert, donc je suis enseignante spécialisée. J'ai deux groupes à l'école. J'ai ce qu'on appelle le petit tremplin et le grand tremplin. Donc, les petits tremplins, c'est les enfants de maternelle. C'est des enfants qui sont en grande difficulté scolaire. Ils sont tous dans une classe avec des enfants de leur âge. Mais il y a des moments où ils viennent avec moi pour travailler plus spécifiquement d'autres choses. Et puis au grand tremplin, c'est un groupe d'élèves de 9 à 18 ans, avec une grosse différence entre leur âge et leur niveau scolaire. Donc j'adapte vraiment les enseignements pour chacun.
Et donc ils sont en équivalence de quel niveau de classe ce groupe-là à peu près ?
Ceux-là, c'est grande section CP. Alors en fait, je pars de où ils en sont. Moi, quand ils arrivent dans la classe, j'évalue leur niveau. Et je pars d'où ils en sont pour les faire avancer le plus possible, en accentuant beaucoup sur la lecture, le langage oral. L'écrit aussi, parce qu'il y en a qui peuvent pas trop communiquer, donc faut qu'ils aient d'autres moyens de communiquer, donc c'est un axe super important. Il y a certains élèves qui ont des logiciels de communication, comme une dictée vocale, en fait, ça dit ce qu'ils veulent dire, donc on peut communiquer comme ça.
À quoi est-ce que vous êtes particulièrement attentive, en fait, auprès de, par rapport à vos élèves?
Alors, c'est des élèves qui ont une santé très fragile. Il y en a qui peuvent pas exprimer quand ça va pas, quand ils ont un problème. Donc, faut être hyper attentif tout le temps. Voir s'il y a pas de problème de respiration. Il y en a qui ont besoin de boire beaucoup. Donc, faut être super attentif, penser à leur donner à boire. Il y en a qui peuvent avoir des crampes, mais qui peuvent pas le dire. Donc, faut surveiller aussi qu'il y a pas une crampe à retirer. Donc, faut avoir tout le temps un œil partout. Pour les aider s'il y a un souci, puis qu'ils peuvent pas le dire.
Et dans ce cas-là, si jamais vous détectez auprès d'un élève qu'il y a un souci particulier, est-ce que vous pouvez faire appel à de l'aide?
Oui, alors dans toutes les classes de l'école, il y a des téléphones et on a un numéro pour joindre les infirmières. Je ne me pose pas de questions, moindre doute, je les appelle et ils arrivent, même si c'est parfois pour rien, on préfère appeler.
Moi, je suis Valérie Burguet, infirmière sur les réas Jacques Brel depuis de nombreuses années. Avant, j'avais fait un petit peu de réanimation aussi, ce qui m'a permis effectivement d'être un peu plus autonome sur les réas.
Moi, Stéphane Fouché, je suis aide-soignant depuis 20 ans à l'hôpital, mais tout fraîchement à l'EREA depuis le mois de mai cette année.
Donc, moi, je m'appelle Karine Arzel, je suis infirmière depuis à peu près bientôt 7 ans ici. Effectivement, j'ai eu aussi un petit parcours. J'ai fait beaucoup d'adultes, de la réanimation, si beaucoup, et voilà. En fait, nous, on permet la continuité des soins pour certains enfants. Qui arrivent donc principalement hospitalisés ici et qui viennent à l'école et pour leur permettre en fait de pouvoir être en classe sans avoir à retourner dans les services lorsqu'ils ont besoin de soins.
Quel type de soins vous apportez-vous aux élèves ?
Alors on va faire un peu comme on dit de la bobologie, mais ça c'est pas l'essentiel. On va aussi faire beaucoup de surveillance, beaucoup d'éducation, beaucoup de après des soins très techniques, style sondage urinaire, aspiration trachéale pour les enfants trachéotomisés. On va aussi faire de la prévention des scars parce qu'ils ont des matériels comme attelle, coque dans les chaussures, coque de station assise, verticalisation, enfin voilà, tous ces systèmes-là pour qu'ils soient bien.
Et certains traitements aussi, qui, au lieu de retourner dans le service, en fait, on leur permet de les avoir sur l'école, ce qui est le plus adapté. Et on les accompagne également en sortie.
Oui, ou des voyages pédagogiques ou aussi. Voyages, on peut être amené à partir une semaine avec une classe et encadrer en fait, le côté médical, nous, c'est nous.
Par rapport à tous les soins un petit peu techniques que vous apportez, ça se passe ici, dans cette salle, ou vous avez d'autres locaux médicaux?
Alors, on a l'infirmerie ici, on a des toilettes au moins un, des toilettes... En fait, on a des toilettes un peu partout, et des salles, des tables de change aussi pour les plus petits, dans différents étages aussi.
Alors, salle Montessori, c'est ici, avec la classe Damar. Est-ce qu'ils sont déjà là? Oui. Nous voilà.
Bonjour.
Madame. Vous vous souvenez, on a dit que les hommes et les femmes ont décidé de faire des paquets pour compter. Ça a commencé il y a très très longtemps. Et ils ont fait des paquets de
10.
Mais pourquoi des paquets de 10?
Parce qu'on a 10 doigts.
Mais oui, une dizaine. Je suis Yassa Amar, enseignant spécialisé en cycle 2. Et cette année, j'ai des élèves de CE1, CE2.
J'avais une classe de combien d'élèves?
C'est une classe de 8 élèves, 4 garçons, 4 filles, 6 CE2, 2 CE1.
Vous travaillez ici depuis longtemps?
Depuis plusieurs années, à peu près 16 ans, je crois, dans cet établissement. Les enfants sont dans une salle équipée à 95%, on va dire, de matériel tiré de la pédagogie Montessori. Et donc les enfants ont la possibilité d'utiliser le matériel, que ce soit en langage, en mathématiques ou en découverte du monde, de manière assez libre. Il y a quand même des règles, il y a quand même une progression. Mais vous le voyez, ils sont plutôt actifs, chacun dans leur coin, sur leur tapis, à deux ou seuls.
On fait de l'écriture.
Mais alors, t'écris dans quoi? Parce que c'est un petit peu bizarre.
Du sable.
Les élèves de CE1, CE2, il est bientôt l'heure de commencer à ranger, parce qu'il est bientôt l'heure de la récréation. Dans le calme, je vous demande de ranger le matériel et d'enrouler vos tapis, s'il vous plaît.
Je fais en intérieur la récréation?
Non, alors ça dépend de votre niveau de fragilité et de fatigue.
D'accord. Donc, par exemple, je ne sais pas si là il fait trop froid ou pas, est-ce qu'on a des... Non, on n'a personne, donc ils doivent être dans la cour.
D'accord.
Il y a certains qu'on ne sort pas. On va aller un peu en récré.
Non, mais on va passer par là. Hop, Mia, elle reste à l'intérieur, t'inquiète pas. Allez, viens.
Voilà, Mia, parfait.
Donc là, on est dehors, dans une cour de récréation qui ressemble à une cour de récréation.
Bah, tout à fait, absolument.
Ils sont une trentaine.
Oui, là, oui, ça dépend des rééducations. Ils peuvent se trouver dans les services aussi. Les services pédiatriques, ils sont juste derrière vous, en fait.
Hein. D'accord.
Donc, tout là, par service, en fonction des troubles spécifiques. Ce qui est génial à l'école, c'est qu'ils ne sont pas du tout regroupés par service. Donc, par service, en fonction des pathologies, c'est normal qu'ils soient regroupés au niveau médical. Mais à l'école, on trouve de tous les services dans toutes les classes. Voilà. Et ça veut dire qu'il y en a un qui peut faire des petites choses plus que son voisin. Et le voisin, il peut compenser en faisant autre chose. Et donc, du coup, on a eu une jolie émulation comme ça. Et donc, les rééducateurs, voilà, il y a une orthophoniste qui vient, qui ramène un élève qui était en rééducation. Pareil, Tyric, qui vient, accompagné de l'aide-soignante, parce qu'il était en soins, en rééducation. Hop. Donc, il y a des allées-venues comme ça, tout le temps, un nombre de fois incalculable par jour.
Gauchia, un rôle très important dans l'établissement. Allez, je vous laisse, Gauchia.
Ok, bonjour.
Bonjour. Vous voulez bien vous présenter?
Oui, bonjour. Je suis Gauchia. Je suis AESH dans cet établissement.
Depuis longtemps?
Oui, depuis plus que 10 ans.
D'accord.
Alors, je connais bien la boutique. Dans cet établissement, j'aime bien les contacts, surtout avec les enfants. Et c'est le plaisir après de les voir qui sont évalués pendant des années, parce que c'est vrai que quand ils arrivent, ils sont un peu timides. Et après, on voit qu'ils gagnent confiance, qui irait aussi bien avec la maîtresse. On est 3 AESH et on est souvent dans les classes, mais aussi on l'accompagne dans, par exemple, moi je l'accompagne dans le sport, quand ils vont à la piscine, au golf ou au poney.
Alors, qui est-ce qui vous donne les préconisations ou qui vous explique les besoins pédagogiques des enfants?
Surtout, c'était entre la maîtresse et le maître. On discute et après on cherche les solutions pour un élève ou pour plusieurs. Et surtout, on est pratiquement les mains pour ceux qui sont en fauteuil, surtout aussi on aide.
Un petit passage en CE2. J'avais envie de vous montrer le travail personnel et puis une petite poésie, je crois. C'est un moment de poésie, c'est un moment poétique, c'est super important. On est un petit peu en retard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bien, enchantée.
Vous êtes enseignante pour la classe?
Oui, tout à fait. Alors, nous sommes deux. Parce que cette année, Olivia, elle passe le KPI.
Oui.
Et donc, moi, je la remplace.
Est-ce que tu veux bien que je te pose des petites questions, Esteban?
Oui. Du coup, tu avais préparé une petite poésie? Oui. Un serpent en vedette. Mais quel est ce pélope?
qui trône au milieu du salon. C'est la vedette de la saison. Aussi précieux que le beau marbre, il est temps à présent de le décorer.
Et alors, qu'est-ce qui fait que vous allez décider la sortie de l'Héréa Jacques Brel?
Alors, en tout premier lieu, c'est les médecins qui décident de la venue comme de l'arrêt. Maintenant, collégialement, et c'est ça qui est très aussi emblématique de notre fonctionnement en intermétier, les médecins, les rééducateurs, les soignants, l'école, nous décidons bien sûr avec la famille et en fonction des possibilités de l'enfant, nous décidons de la suite. Où nous projetons l'enfant, vers quoi, quel sera son parcours de réussite. C'est comme ça qu'on analyse les choses et qu'on fait un accompagnement, nous l'école, une prise en charge médicale, pour que eh bien, tout soit cohérent et aligné.
Guirlande, boule et sujet sapin sont tous là pour le sublimer. Karine Persillé.
Super, t'es hyper fort en poésie.
Merci.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe et les enseignants qui travaillent avec vous?
Alors, l'équipe se compose d'enseignants du premier degré, 12 enseignants. Beaucoup sont spécialisés, donc possèdent un KPI. Ils fonctionnent devant des toutes petites classes, entre 7 et 9 élèves. J'ai une équipe aussi du second degré. Donc ça, c'est très passionnant, parce qu'il y a des identités et des cultures métiers très différentes entre le premier et le second degré. Donc là, on a de la co-intervention, du co-enseignement, un petit peu comme ce qu'on retrouve en lycée pro, de la co-construction de séquences. Et j'ai 4 enseignants du second degré à temps plein, en EPS, en technologie, et il fait tout ce qui concerne le numérique, en éducation musicale et en art plastique. Et 3 enseignants à mi-temps en anglais, français, maths. Et je peux demander des enseignants supplémentaires, si je vous parlais des 2 autres EREA, et aller piocher dans le vivier des autres EREA lorsque j'ai un besoin spécifique, une arrivée d'un adolescent qui est scolarisé en collège ou en lycée et qui a besoin d'autres matières que je n'ai pas sous la main. Donc la complémentarité des 3 EREA, elle est réelle, encore aujourd'hui. Et puis, pour une petite frange de mon effectif, vous rencontrerez tout à l'heure l'équipe qui s'occupe du chevet. Et bien là, nous allons directement dans les chambres.
On va montrer un petit peu ce que vous faites à l'école.
Oui.
C'est bien. Toi, ça fait longtemps que tu es dans cette école?
Oui.
Combien de temps?
3 ans.
D'accord. Tu es bien?
Oui.
Qu'est-ce que tu aimes?
J'aime tout.
Tes maîtresses?
Oui.
Tes copains?
Oui.
Okay. Tu vois aussi les docteurs?
Oui.
Ils sont gentils?
Oui.
La vie est belle.
Ouais. J'ai l'impression que c'est chouette.
Voilà. Et là, on va monter au chevet. Nous sommes un peu en retard, pardon.
Bonjour.
Je vous laisse.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Margot Bougnon. Je suis enseignante dans le premier degré et coordinatrice au chevet. Donc, je fais les plannings des enfants, des enseignants, en tenant compte des rééducations.
Bonjour, moi je suis Mathieu Renoux. Je suis enseignant au premier degré. Je donne des cours au chevet, c'est-à-dire que je vais dans l'hôpital pour donner des cours aux élèves.
Vous êtes tous les deux enseignants du premier degré, exclusivement au chevet? C'est ça, on intervient à l'hôpital de jour. Donc, on intervient 1 heure pour chaque enfant. On va peut-être, moi, peut-être plus travailler certaines matières et Mathieu, d'autres matières.
Après, évidemment, on peut s'adapter les séances, faire des séances, des toutes petites séances où on fait plein de petites choses en fonction des élèves, quoi, parce qu'on a des élèves très différents. Il y en a qui sont vraiment d'un niveau CP, donc on fait de la lecture, on fait des maths vraiment très basiques. Et d'autres qui sont dans le secondaire, donc qui ont besoin de cours du programme ordinaire. Et voilà, donc c'est un peu un grand écart. On adapte beaucoup ce qu'on fait, quoi.
Parce qu'il faut savoir qu'au chevet, on a des enfants qui viennent de l'ordinaire, qui sont en post-opératoire, comme des enfants qui viennent d'IME, d'IEM, ou encore qui ont été accidentés. Et du coup, on essaye de poursuivre leur scolarité. Comme ce sont des élèves en post-opératoire, ils peuvent rester entre 3 semaines, 4 mois, ou... cas exceptionnel, 1 an, 2 ans, puisqu'on ne sait pas où les mettre l'année prochaine. Enfin, l'année d'après. Qu'est-ce que vous prenez en compte pour faire votre planning par rapport aux élèves ?
Alors, je tiens compte de leur rééducation, tout ce qui est kiné, ergothérapie, orthophonie et psychologue. Une fois que j'ai toutes ces informations-là, je comble les trous avec les enseignants du secondaire et du premier degré.
Par exemple, pour Josh, j'avais essayé de contacter son... Alors, Josh, pardon, c'est un élève qui a une scolarité ordinaire et qui était en sixième. Donc, comme il allait retourner dans son collège, j'ai demandé à son professeur de savoir où est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il voulait faire. Bon, la communication n'a pas été évidente, mais on se débrouille avec ce qu'on peut s'il y a des professeurs existants. Et sinon, évidemment, on évalue aussi les élèves. Hein, on les évalue... pour voir de quoi ils ont besoin, parce que parfois il y a des élèves qui ont des cas très particuliers, quoi. On est plus vraiment dans les programmes, donc on donne des objectifs d'apprendre à lire, d'apprendre des choses assez importantes, et en même temps on n'est pas sûr que ça porte ses fruits tout de suite. On tâtonne aussi parfois quand même.
Du coup, moi, comme je suis coordinatrice au chevet, j'assiste aux réunions avec les médecins et j'en sais un peu plus sur certains patients élèves. Et ça me permet de connaître un peu leur pathologie et de le transmettre à mes collègues pour pouvoir travailler au mieux avec eux.
Ces réunions avec les médecins, c'est des temps qui sont hebdomadaires, qui sont mensuels, qui sont journaliers?
Tous les lundis pendant 2 heures. Comme ça, on parle des arrivées, des départs, de chaque enfant, de leur progression scolaire, de leur progression au niveau de la rééducation. Et c'est très intéressant.
Je suis le docteur Neumann. Je suis neuropédiatre à Garches depuis 2 ans maintenant. Je suis la responsable de 2 unités du service de médecine physique et réadaptation. À la fois une unité avec des enfants de 3 à 6 ans qui ont un trouble du neurodéveloppement précoce avec des anomalies motrices, beaucoup de paralysie cérébrale, mais pas que, et du coup beaucoup qui sont en maternelle par déficience du fait de leur âge, et une unité d'un peu plus grande de 6 à 10 ans avec plus des troubles des apprentissages, mais souvent dans des contextes de maladies associées, soit des maladies avec des mutations génétiques retrouvées ou des lésions cérébrales acquises. Donc ce sont des enfants qui avaient un développement et un cerveau qui allait bien jusqu'à un moment donné où ils ont eu un événement spécifique, soit un accident de la route, soit une infection, soit quelque chose, une tumeur, qui a fait qu'il y ait une anomalie localisée ou diffuse dans leur cerveau. Et du coup, ça a des conséquences plus ou moins importante sur les apprentissages, sur la motricité, sur le comportement, etc. Pour l'individualisation d'une certaine façon de la prise en charge, on fait des points en début d'année. Les patients arrivent, ils restent sur des années scolaires complètes, donc on fait souvent des points en début d'année pour présenter les particularités de chaque enfant de façon globale à l'ensemble des enseignants, parce qu'ils doivent tous être au courant de certaines difficultés, soit comportementales, soit de difficultés motrices, de difficultés de communication ou autres, au niveau de la cour de l'école. Et ensuite, on fait des points un peu plus individuels avec les enseignants en ce qui concerne les difficultés spécifiques des enfants.
Quand vous dites on partage des informations, est-ce que c'est le secret médical que vous partagez en fait avec l'équipe ?
Alors, ça, c'est un sujet qui est très important chez nous. Je pense que tout le monde le sait. En tant que médecin, on est tenu légalement au secret médical, donc à ne pas partager des informations et des détails médicaux avec des personnes en dehors du corps médical. Et classiquement, les enseignants, en dehors, dans un milieu ordinaire, n'ont pas accès à ces informations. Quand je suis arrivée ici, effectivement, j'avais cette habitude de ne pas partager particulièrement des informations sur le plan scolaire. Et ça a été une des premières choses qui était marquante à mon arrivée. Les premières synthèses, du coup, comme je vous disais, pluridisciplinaires, il y avait l'enseignant. Et du coup, on discutait avec les parents ou aux synthèses professionnelles sans les parents de sujets médicaux qui étaient ouvertement discutés. Donc, je me rappelle que c'était une de mes premières questions à ma chef d'unité. Est-ce que c'est normal qu'on parle aussi ouvertement devant les enseignants de données médicales ? Et effectivement, elle m'a expliqué que sur le plan administratif, les REA et les enseignants sont des vrais partenaires qui participent à part entière dans la prise en charge globale de l'enfant. C'est acté et on revient là-dessus tous les débuts d'année. On revient sur l'importance de... Ils ont accès à des informations qui font partie du secret médical et qui sont particulièrement délicates. Il faut qu'ils se rendent compte des tenants et des aboutissants d'avoir ces informations, qu'ils comprennent que c'est sous notre responsabilité. On engage vraiment notre responsabilité professionnelle en partageant cette information, mais on le fait justement parce qu'on considère que plus on arrive à personnaliser la prise en charge et individualiser la prise en charge, que ce soit sur plan rééducatif ou éducatif ou scolaire, mieux on pourra accompagner les enfants. Le fait que l'enseignant soit au courant de façon plus fine et plus détaillée des difficultés de l'enfant, clairement, devrait pouvoir les aider par la suite.
Ensemble, on a récolté 18 000 euros. On a fait un super projet avec Alexandra, avec l'Égrippé aujourd'hui, avec le médecin, le docteur Sarah Neumann, que vous avez vu hier, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. On a travaillé le projet en collégialité, en intermétier, comme on aime faire. Et on a fait un super projet. Et la salle est là. Depuis maintenant... Quoi, ça fait un mois et demi.
D'accord.
Donc voilà, immersion totale, là, dans la tranquillité.
Coucou.
C'est à nouveau Nyota. Qu'est-ce que tu veux, Nyota? Est-ce que tu veux le ciel étoilé?
Oui.
Oui. Allez, bah, c'est parti. Waouh. Tu vas aller sur le matelas haut. Tu veux que je t'aide?
Conçu cette salle, quand on a pensé le projet, c'était vraiment pour les élèves de maternelle. Et il y avait deux élèves qui sont partis aujourd'hui, on a eu 2 ans et 3 ans, qui relevaient du polyhandicap. Donc on n'était pas forcément complètement la structure la plus adaptée, mais on s'est dit que pour les maternelles, les pathologies étant si sévères que ça allait bénéficier à tous. Donc on a conçu ça comme ça. Et puis le projet en intermétier, et puis pour conduire jusqu'à cette salle. Et on essaye maintenant d'intégrer les élèves de cycle 2 ou cycle 3 qui ont un petit coup de blues, un petit moment où les émotions ne sont pas gérées. Et bien on les amène dans nos élèves. Donc, il y a une double... Ah, Thomas, on va prendre le temps, Thomas. On va prendre le temps. Et je vous réinstalle ou, je sais pas, dans mon bureau tranquille, c'est très bien. Voilà.
Donc, je m'appelle Thomas, je suis à ESH, donc ici depuis 9 ans. Puis, je joue un peu sur les deux plans, donc je suis animateur et à ESH.
Au niveau du lieu du centre de loisirs, est-ce que c'est aussi dans ces locaux?
C'est dans les mêmes locaux, oui. C'est au rez-de-jardin, donc c'est l'étage en dessous. Voilà, c'est bien pour eux parce que ça reste les mêmes repères, ils ne sont pas perdus.
Est-ce que c'est parfois difficile au niveau émotionnel pour vous de travailler avec des enfants qui ont une santé fragile?
Ça peut amener à des épisodes compliqués émotionnellement. Après, c'est aussi ce qui fait le charme de ce travail, c'est qu'on est là dans les difficultés. Mais voilà, ça rend les choses intenses, mais en même temps, c'est... Le côté gratifiant est d'autant plus fort, c'est-à-dire pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et aussi ça nous pousse aussi nous à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est enrichissant pour eux et pour nous. Donc voilà. Et je trouve qu'on a une place privilégiée vraiment par rapport aux enseignants qui doivent vraiment soutenir un rythme d'enseignement assez soutenu, qui doivent en permanence s'adapter à différents élèves. Nous vraiment on a le privilège de pouvoir observer et de pouvoir prendre le temps avec chaque enfant. Donc vraiment, c'est un privilège, je trouve, ici, dans cette area en particulier. Je suis très fier d'être ici, en tout cas, d'exercer ce métier ici.
Donc, on reprend un petit peu le contexte. Donc, vous êtes des CM2, l'année prochaine, c'est le...
Collège.
Donc, pour vous préparer au collège. Nous avons été visiter deux collèges avec des particularités. L'un avait un dispositif
Élise
et l'autre
SECPA.
Une classe de SECPA. Qui peut me redire donc qu'est-ce que c'est qu'une Ulysse? Quand on parle d'une Ulysse, qu'est-ce que c'est? Baptiste?
C'est un dispositif. Quand on a une difficulté dans une matière, et ben on va sur le dispositif.
Ok, pourquoi on parle de dispositif et pas de classe?
Parce que c'est pas notre classe.
Et là, vous êtes où?
Dans une autre classe ordinaire. Okay.
Donc vous êtes dans une classe ordinaire comme n'importe quel collégien. Et de temps en temps, vous allez dans une autre salle avec un autre enseignant qui vous aide sur certaines matières quand vous avez des difficultés.
Okay. Qu'est-ce qu'une SECPA?
Par rapport à l'orientation des jeunes, quelles sont les perspectives qu'ils peuvent envisager lorsqu'ils sortent d'une EREA en fonction de leur âge?
Alors, lorsqu'ils sortent de chez nous, c'est vraiment très spécifique. Les autres EREA ne fonctionnent pas ainsi. Alors, on a des élèves de maternelle. Ces élèves-là, ce sont peut-être les plus fragiles. Là, les orientations sont dans le médico-social, les IME, les IEM. Donc, les instituts d'éducation motrice, qui ont des profils très spécifiques. Donc, on regarde si le profil de nos élèves correspond. Les IME, qui ont d'autres profils. Du coup, pour les maternelles, on va dire que vraiment, c'est essentiellement cette orientation-là. Ensuite, pour les élèves qui ont des troubles sévères des apprentissages et du langage, eh bien, on tend vers des dispositifs comme l'Ulysse ou comme la SECPA, mais rarement dans l'ordinaire. Beaucoup arrivent de l'ordinaire, beaucoup arrivent nos élèves un peu cassés, ils ont eu des difficultés majeures à apprendre à lire ou à surmonter plein de choses. Et du coup, on travaille et on étaye autrement.
Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la SECPA? Qu'est-ce qu'on fait de particulier?
Voilà.
En quatrième, tu peux commencer à apprendre un peu du... des métiers.
Je comprends l'idée. On commence à apprendre des métiers, mais comment ils appellent ça en SECPA?
Ils font des ateliers.
Ils font des ateliers.
Je m'appelle Mayol. J'ai.
Quels sont les différents ateliers dont on vous a parlé?
10 ans.
D'accord. Et donc tu es ici à Jacques Brel depuis combien de temps?
2021, 2022, 2023, 2024. 4 ans environ.
Ok.
Il dit pas de bêtises.
Est-ce que tu dirais que tu es un bon élève?
Arthur, est-ce que je suis un bon élève ou pas?
Ça dépend des jours.
Hein.
Est-ce qu'il y a des matières que tu aimes bien?
Aucune, à part les maths, le français, et l'art plastique et l'art plastique.
Ça fait déjà pas mal.
Oui.
Ouais. Est-ce que tu aurais envie de me dire quelque chose sur cette école?
Je l'aime bien et voilà, j'ai pas envie de la quitter. Voilà tout.
Ils vous ont dit qu'il y avait plus de devoirs ou pas?
Non. C'était ça dépend mitigé. Les profs.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Parce que là, au lieu d'avoir, on donne une chose à faire, mais là, si chaque professeur donne un travail à la maison, il va falloir se préparer. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on commence à se préparer dès maintenant aux devoirs?
Moi, c'est Lisa Marignan. Je suis prof d'anglais ici à l'EREA. En effet, je suis partagée entre deux établissements. Donc, j'ai un établissement ordinaire, un collège ordinaire. Et puis, j'ai cet établissement extraordinaire où je travaille depuis 4 ans. Enfin, c'est ma 4e année. J'ai voulu mettre au service des élèves des choses que je savais peut-être que je pouvais faire autre que l'enseignement de ma discipline et enseigner ma discipline à travers aussi de manière un peu différente. Donc j'avais essayé de creuser un petit peu et du coup, il y a 2 ans, j'ai dit « Ok, est-ce que ça vous dirait de jouer dans une série ?» Et ils étaient très motivés. Je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner, mais je ne sais pas, j'avais l'air sûre de moi, du coup, ils m'ont fait confiance. Donc, je fais des espèces d'entretiens avec eux, comment tu veux te voir dans la série, etc., pour pouvoir être au plus près de ce qu'eux, ils souhaitaient, comment ils souhaitaient se voir. Parmi les choses extraordinaires qu'elles ont fait, il y a quelque chose qui s'appelle la médiation par l'animal. Il y a une personne qui vient avec des animaux et qui travaille... On sait tous que les animaux, enfin, ça aide donc plein de...
Alors là, c'est médiation animale. Super projet avec les maternelles. Okay.
un petit parcours avec un petit chien. Et les élèves de maternelle vont s'occuper de faire le parcours au petit chien.
Alors, c'est à qui ? C'est le même, c'est ça ?
Oui.
Alors,
attention, toi, tu donneras avec la main la croquette. Hein ? Tu donnes avec la main la croquette, toi. Oui. Allez, viens, on commence là. Prêt ? Lilou, t'es prête ? Tiens.
Prends la laisse dans la main.
Vas-y, on va attendre, je te laisse n'importe quoi. Viens, tu me donnes la main ? On essaie de passer par-dessus ? Allez, Lilou. Vas-y, t'essayes ? Ouais.
Donc, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée, je me suis dit, ouais, pourquoi pas intégrer ça dans le film ? Travailler avec des animaux, mais je vais jamais tourner avec des animaux. Je peux pas vous dire. On a pris un cochon d'Inde qui était du coup la star du film. Et les petits cocos. Et en fait, Coco, eh ben, il ne voulait pas marcher, il ne voulait pas bouger. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de temps. Il y avait la personne qui filmait, ben, on avait une heure pour tourner avec Coco. Mais Coco, il ne voulait pas bouger, il ne voulait pas marcher. On ne pouvait pas non plus les traîner. On dit, madame, excusez-moi, il y a ce Coco, il ne veut pas bouger, vous n'avez pas un autre Coco ? Elle a dit, oui, je peux être un autre hamster qui est un peu plus jeune. Donc peut-être il va vouloir bouger un peu plus. Donc on prend les deuxièmes cocos. Donc dans le film, vous verrez deux cocos et les gens, ils ne savent pas pourquoi les cocos, il a changé de couleur. On met un fond vert parce que l'autre coco, il ne voulait pas bouger non plus. Sauf à un moment, il commence à s'échapper. Je dis, punaise, il va bouger juste le moment juste pour s'échapper en fait. Il essaie de s'échapper, on était à l'extérieur. Donc on essaie d'attraper Coco. Enfin, il y avait les médecins qui passaient, qui se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous, on courait derrière un cochon d'Inde. Les enfants, ils étaient contents, mais nous, on était en détresse.
C'est au tour de Yacène en fauteuil.
Tiens bien, parce que tiens, Lilou, des fois, elle fait un peu n'importe quoi. Hein. Allez, vas-y, Lilou. Hop. Oui, Lilou, tu regardes, là. Oui. Allez, dirige-la. Oui.
Super.
Tu veux lui donner la croquette ?
Avec la pierre.
Et je cache pas qu'il y a, des nuits sans sommeil parce qu'il fallait trouver les temps entre les deux établissements, etc. Il fallait trouver les temps pour travailler, pour envoyer des mails, pour faire ci, pour faire ça. Donc il y a eu des nuits blanches, c'est sûr. Et des fois, je me disais, mais est-ce que peut-être, en fait, ils n'ont pas raison les autres ? Je suis folle à vouloir faire ça. Je me suis embarquée. Mais donc quoi je me suis embarquée ? Parce que peut-être ça ne va pas le faire, en fait. Et je vais décevoir tout le monde. Et moi comprise, peut-être ça va pas le faire, quoi. Et en fait, je me souviens un jour, un matin, on travaillait sur les répliques de, avec Mathia, on travaillait un peu sur ses répliques, etc. Et puis, il s'arrête, Mathia, et il me regarde dans les yeux, il me dit, tu sais, Lisa, en fait, chaque année, je sais pas trop quoi attendre. Peut-être je suis heureux au printemps parce qu'il fait beau et il y a du soleil. Je suis heureux Noël. Parce que mon grand-père, il habite à l'étranger, je peux le voir, la période de Noël. Et là, cette période de l'année, je ne sais jamais pourquoi être content. Et je n'aurais jamais pu penser que ça aurait été la période la plus belle de toute ma vie. Et merci, c'est le moment le plus beau de ma vie. Et du coup, je me suis dit, je sais pourquoi j'ai fait ça.
Attention.
Va ici.
Tu vas ici, Lilou, va ici, d'accord ? Allez, Lilou, hop. Allez,
saute.
Oui.
Saute.
Saute, tu lui dis, ah, c'est bien, tu lui dis, vas-y.
Saute.
Au tout début, je me souviens quand je commençais à proposer ce projet un peu en rigolant, mais moi, je savais au fond de moi, j'étais sérieuse, je voulais vraiment le faire. Et je me souviens qu'au tout début, bah, c'est normal, les gens autour de moi, bah, ils me regardaient en pensant, comment tu penses faire ça ? Il y a beaucoup de barrières. Il y a plein de barrières au niveau de l'état de santé de certains élèves. Donc, ils ont dit, mais comment tu veux que... Ben, moi, c'est justement là que je voulais aller. Enfin, l'impossible, mais pourquoi c'est impossible ? Je voulais aller là. Si eux, ils en avaient envie, pourquoi on ne pouvait pas le faire ? Et c'était vraiment sympa, parce qu'ils ont pu voir aussi un tournage professionnel, qu'est-ce que ça donne, et puis les résultats. Ça a été projeté au cinéma, donc ils étaient trop contents.
Et...
Oui, et on a fait à Garches. Et du coup, on a fait la première année, on a fait un ciné-débat, où les élèves, ils sont montés sur scène. Et puis, bah, les publics, ils leur ont posé des questions bah, à propos de un peu de tout, de comment est-ce qu'ils avaient fait ça, etc. Et qu'est-ce qu'ils avaient ressenti en faisant ça. Donc, c'était hyper intéressant. Ils étaient trop fiers d'eux et j'étais trop fière d'eux aussi et ça c'était vraiment magique. Mon but c'est également que peut-être ceux qui regardent ces films, qu'ils puissent vraiment rentrer au milieu de cet établissement extraordinaire et qu'ils puissent le voir, mais qu'en fait, toute la magie des choses incroyables qui se passent ici, que peut-être quelqu'un puisse aussi voir la magie.
Je n'ai pas vu le film des élèves de l'EREA Jacques Brel avec Coco en vedette. Mais je peux vous dire que la magie, je l'ai vue. Dans la cour, dans chaque classe et dans tous les couloirs de cet établissement extraordinaire. Et j'espère que vous avez pu l'entendre à travers les voix des enseignants, entendre leur dévouement et leur passion, qu'ils soient dans les classes ou au chevet. Entendre le dévouement et la passion des animateurs, des AESH, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, et la manière dont ils travaillent main dans la main dans l'intérêt des enfants, les patients élèves de l'EREA Jacques Brel. Ici, l'exigence scolaire existe. Elle est positionnée en fonction des capacités cognitives et de la fatigabilité des petits patients. Mais c'est bien le bien-être et le plaisir des enfants qui priment. Pour leur donner confiance, les encadrer en fonction de leurs besoins et leur permettre d'apprendre et de progresser à leur niveau. Le travail intermétier et les regards croisés au quotidien entre l'école et l'hôpital, c'est ce qui fait la richesse de l'établissement. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Élise Vien, qui m'a bouleversée par son investissement sans limite auprès de ses équipes et de ses élèves. Merci à tout le personnel, tellement soucieux de parler de leur établissement si précieux. Merci également aux parents qui ont accepté que j'enregistre leur enfant. Et merci à tous les élèves qui m'ont raconté leur quotidien dans cette école magique. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopée pour le mixage de l'émission. À bientôt !